Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la révision de la Constitution au Mali. Nous sommes à 3 semaines du référendum et sur place, la contestation s'organise. Il faut dire que l'opposition et une grande partie de la société civile dénoncent une révision qui renforcera les pouvoirs du président de la République. Car si le oui l'emporte le 9 juillet prochain, eh bien le chef de l'État pourra désigner un tiers des sénateurs. Il pourra également nommer le président de la Cour constitutionnelle, ce qui fait dire finalement aux opposants que les autorités sont en train d'installer une monarchie. Les opposants qui dénoncent également l'illégalité de la révision constitutionnelle, car vous le savez, la situation sécuritaire qui prévaut dans le centre et dans le nord du pays ne permettra pas la tenue du référendum sur l'ensemble du territoire. Alors dites-nous si cette contestation vous semble justifiée. Vous qui êtes sur place au Mali, voterez-vous pour ou contre cette révision de la Constitution? Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Vos réactions sont nombreuses sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter le débat et la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous avez été quelques-uns à nous appeler après le témoignage la semaine dernière de l'ancien directeur du FBI, James Comey, limogé le mois dernier par Donald Trump. Norbert est avec nous. Bonjour Norbert. Allô, allô. Norbert, à Lomé, au Togo. Est-il là ou l'avons-nous perdu? Il était là il y a quelques instants puisque je voyais son nom affiché sur mon écran et on s'active évidemment de l'autre côté en cabine, en régie pour essayer de restaurer la liaison téléphone. Sinon, écoutez, je me fais son porte-parole. Ah, il est là. Norbert, êtes-vous là?
Je suis en ligne, Juan.
Ravi de vous entendre. La magie des télécoms, quand ça fonctionne, je vous cache pas que ça nous fait plaisir. Vous avez donc des questions sur le témoignage de James Comey la semaine dernière devant le Congrès.
Alors, Juan, l'ex-directeur du FBI, James Comey, a témoigné la semaine dernière devant le Congrès américain dans le cadre des enquêtes sur les possibles interférences russes dans la campagne américaine et sur les liens de l'équipe Trump avec Moscou. Mmh. Alors à ce propos, Juan, je voudrais savoir si le témoignage de James Comey peut constituer, au regard du droit américain, un mobile suffisant pour entamer une procédure de destitution contre Donald Trump.
Ah, excellente question.
C'est intéressant de savoir. Oui, une deuxième question, Juan. Comment réagit la Maison-Blanche après cette audition et face aux révélations de l'ancien chef de l'FBI?
Oui, après l'audition de James Comey, Donald Trump peut-il être poursuivi? Bonjour Annick Cizel.
Oui, bonjour.
Spécialiste de la politique étrangère des États-Unis, enseignante, chercheuse à la Sorbonne. Rappelons en quelques mots rapidement les propos de l'ancien chef du FBI. Il a affirmé sous serment que le président Trump avait exigé de lui sa loyauté, qu'il lui avait demandé d'abandonner un volet de l'enquête sur les liens d'un ex-conseiller avec la Russie. Est-ce suffisant, selon vous, pour entamer des poursuites contre le président américain?
Alors c'est vrai qu'il y a énormément de résonance médiatique depuis et d'ailleurs politique à Washington depuis l'intervention donc sous serment du désormais ancien directeur du FBI Jim Comey, qui clairement a été limogé par le président Trump dans le cadre de cette investigation, de cette enquête. On a un faisceau effectivement de soupçons sur une potentielle obstruction de la procédure judiciaire qui viserait également sans doute d'ailleurs la commission indépendante d'enquête qui a été nommée sous l'égide d'un ancien directeur du FBI, Robert Mueller, et qui était soutenu de manière bipartisane, républicain et démocrate, et où on voit les soutiens de Donald Trump aujourd'hui commencer à attaquer personnellement Bob Mueller. On a un faisceau de soupçons parce que le président des États-Unis a dans un premier temps organisé, si on en croit Jim Comey, organiser un tête-à-tête sans témoin, demandant au garde des Sceaux, au ministre de la Justice Jeff Sessions, de quitter la pièce, également à Jared Kushner, son gendre. Donc il a organisé un tête-à-tête sans témoin.
Un tête-à-tête dans le bureau ovale.
dans le bureau ovale, avec toute la pression possible envers le directeur du FBI, revenant à plusieurs reprises sur la loyauté du directeur du FBI dans le cadre de ses fonctions envers le président des États-Unis, pas nécessairement M. Trump, mais la fonction présidentielle. Donc, le limogeage de Jim Comey dans les suites de cet entretien laisse penser que... Mais pour l'instant, on n'a absolument que des soupçons. La question, c'est, y a-t-il eu enregistrement de cette conversation ou pas? Les membres du Secret Service américain, pour l'instant, disent qu'ils n'ont pas de cassette, qu'ils n'ont pas d'enregistrement numérique, qu'ils n'ont rien. Après, un certain nombre de membres de la presse, notamment, qui ont accès au bureau ovale assez souvent, laissent entendre que le président Trump aurait l'habitude d'enregistrer toutes les conversations qui ont lieu dans le bureau ovale. Donc, est-ce qu'à un moment, une preuve tangible va sortir de cette conversation? Pour l'instant, c'est la parole de Jim Comey contre celle du président Trump.
Oui, et James Comey qui dit tout de même ne pas avoir reçu un ordre direct du président Donald Trump. Il lui a suggéré de relâcher la pression sur Michael Flynn, donc cet ancien conseiller à la sécurité nationale. Donc c'est une perception des propos de Donald Trump plutôt qu'une affirmation. C'est-à-dire James Comey a eu l'impression véritable que le président a voulu faire pression sur lui, mais à aucun moment, Donald Trump, si j'ai bien compris les déclarations de James Comey, à aucun moment James Comey n'a reçu l'ordre.
Exactement. On est sur une interprétation, on est sur de l'implicite plutôt que de l'explicite, et par conséquent, il est impossible pour l'instant à Jim Comey, même si des enregistrements sortaient, si effectivement ce sont les propos du président Trump, il y a des soupçons, mais pas suffisamment de matériaux pour l'instant pour effectivement mettre entamer une procédure de destitution pour obstruction à la procédure judiciaire.
En deux mots, Annick Cizel, Norbert nous demandait quelle a été la réaction de la Maison-Blanche après justement les propos sous serment de l'ancien président du FBI.
Alors, pour montrer justement que la pression est quand même en train de s'accumuler autour du président Trump, on a deux réactions. Dans un premier temps, parole contre parole. Et le président Trump qui propose lui-même de témoigner sous serment avec tous les risques de parjure que cela peut entraîner. Et effectivement, là, pour le coup, une vraie procédure de destitution qu'il ne pourrait pas empêcher. Ça n'est pas l'intérêt du Congrès américain pour l'instant, ça n'est pas l'intérêt de la majorité républicaine au Congrès d'aller jusque-là. Mais là où le suspense est en train de s'accroître, c'est sur la proposition du ministre de la Justice, Jeff Sessions, qui s'était récusé jusqu'à présent dans toute cette affaire et qui vient de proposer de témoigner lui-même sous serment devant la commission du renseignement du Sénat américain dans
aujourd'hui.
Plus tard aujourd'hui.
Oui.
Et est-ce que Jeff Sessions va servir de fusible pour protéger le président ou va livrer un témoignage à charge? On sait que Trump et Sessions se sont en train de s'éloigner et que la tension monte entre eux deux actuellement. Le suspense continue.
Et suspense à suivre, évidemment, avec notre correspondante permanente à Washington, Anne-Marie Capomaccio. On vivra évidemment cette audition du ministre de la Justice aujourd'hui même. Merci beaucoup, Annick Cizel. On a répondu à vos questions, Norbert.
Parfaitement, merci beaucoup Juan.
Et bonne journée à Lomé, 33 9 693 693 70. Là aussi, un sujet qui a suscité beaucoup de réactions, on pourrait même organiser un débat prochainement, sinon on en parlera vendredi dans la Libre Antenne, c'est la libération de Saïf al-Islam, le fils cadet de l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour monsieur Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Abidjan, dans la circulation, dans les embouteillages, soyez le bienvenu, merci de nous écouter, on vous écoute.
Oui, d'accord. La presse étrangère a annoncé la libération du fils de Kadhafi, Salif Kadhafi, qui était détenu dans la prison de Zintane depuis novembre 2011. Alors, cela, j'ai des questions. La première, comment, sous quelles conditions s'est fait sa libération, dans la mesure où on sait qu'il est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international? Et deuxièmement, est-ce que son retour en politique pourrait être possible? Et si c'est possible, quel impact aura sur la crise libyenne?
Ouais, quel rôle pourra désormais jouer le fils cadet de l'ancien dirigeant libyen? Bonjour Patrick Mzadeh.
Bonjour.
chercheur indépendant spécialisé sur la Libye, ancien diplomate à l'ambassade de France à Tripoli, c'était entre 2001 et 2004, et vous avez publié aux éditions Jean-Claude Lattès « Au cœur de la Libye de Kadhafi ». Alors, Olivier a raison de se poser cette question sur les conditions de cette libération. Rappelons que Saïf al-Islam avait été capturé en novembre 2011, un mois après la mort de son père. Il avait été condamné en 2015 par un tribunal de Tripoli à la peine de mort, par contumace, pour des crimes de guerre. Et depuis 2011, il fait effectivement l'objet d'un mandat d'arrêt international de la CPI pour crimes contre l'humanité. Comment peut-on expliquer cette libération ?
Écoutez, il y a plusieurs raisons. D'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en Libye, pour l'instant, il n'y a plus d'État au sens propre du terme. Il y a un gouvernement reconnu par la communauté internationale qui est à Tripoli, qui n'a pas beaucoup d'autorité en dehors de la capitale pour le moment. Donc je dirais que la milice qui détenait Saïf al-Islam, qui était une milice qui était effectivement azintane, mais qui ne représentait pas non plus forcément les positions de la municipalité de Zintane et des forces dominantes à Zintane. Donc cette milice, en fait, a décidé de libérer Saïf al-Islam, finalement, sur la base d'une déclaration du ministre de la Justice de l'Est libyen. Parce que vous savez qu'il y a toujours un gouvernement à l'Est aussi, qui est proche du maréchal Haftar, ancien naïque, et qui a dit qu'il fallait amnistier tous les prisonniers politiques en Libye, dont Saïf al-Islam. Donc je dirais que cette milice, qui effectivement était assez proche de l'Est, enfin en tout cas des positions d'Eftar, a pris cette déclaration, je dirais, pour argent comptant, oui. et en a profité pour libérer Saïf al-Islam. Donc je dirais que ce n'est pas une décision qui vient du gouvernement de Tripoli, qui engage le gouvernement de Tripoli, qui vient non plus des autorités de Zintane et qui engage les autorités de Zintane. Voilà, donc si vous voulez, tous les acteurs locaux ont des intérêts propre, et c'est comme ça qu'il faut prendre cette décision.
Oui, on parle de deux gouvernements, il faut rappeler aux auditeurs juste pour qu'ils aient deux, trois petits repères, effectivement il y a en ce moment deux gouvernements en Libye, l'un qui est reconnu par la communauté internationale, c'est celui qui se trouve à Tripoli, et l'autre qui est donc dans l'est du pays, qui n'est pas reconnu, lui, par les Nations Unies, et c'est ce gouvernement-là qui a adopté une loi d'amnistie et qui a donc permis la libération, entre autres, de Saïf al-Islam. Cette libération, elle est loin de faire l'unanimité en Libye.
Bah, tout à fait, bien sûr, mais et il demeure que suite, il s'est quand même passé beaucoup de choses ces 15 derniers jours en Libye. D'abord, à Tripoli, il y a eu une défaite militaire, je dirais, du camp de l'islam politique, hein, on peut l'appeler comme ça, qui s'inscrit aussi dans la décision de l'Arabie Saoudite et du Qatar de mettre sur une liste un certain nombre d'islamistes libyens, hein, qui sont des gens qui sont reconvertis maintenant dans le champ politique, mais ça entraîne des recompositions. Hein. Donc ça, c'est un premier événement important qui a entraîné aussi, enfin qui s'est fait en même temps, que l'intervention militaire ouverte cette fois-ci de l'Égypte en Libye contre ce qu'elle appelle les terroristes, qui en fait sont des gens liés aussi à l'islam politique. Donc si vous voulez, on a une recomposition des forces en ce moment, et je dirais que les anciens kadhafistes, en tout cas l'ancien camp qui a soutenu Kadhafi, peut y voir une fenêtre d'opportunité, hein, pour revenir dans le champ politique. Mmh. Ajoutons à cela la querelle, enfin le débat non réglé entre l'Est et l'Ouest, entre ces deux gouvernements, qui pour l'instant on n'y voit pas d'issue politique à court terme. Donc ça peut effectivement permettre à ce troisième champ politique, je dirais, des anciens kadhafistes, d'y voir une fenêtre d'opportunité pour peut-être peser dans les débats à venir.
Ouais, Patrick Hemzadeh, en quelques mots, notre auditeur Olivier, qui est toujours en ligne d'Abidjan, nous rappelait que Saïf al-Islam était recherché par la Cour pénale internationale. Quel avenir judiciaire pour lui, à votre avis ?
Bah, tant qu'il n'y a pas de gouvernement en Libye en mesure de s'imposer dans tout le pays, pour l'instant, ça n'a pas de conséquences. Oui. Hein. Je dirais qu'il peut, il peut continuer à évoluer en Libye, dans beaucoup de zones où il a des soutiens, des relais. Voilà. Donc, ce que ça peut embarrasser, effectivement, c'est le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Pour le reste, je dirais que bon, c'est pas déterminant en ce moment en Libye.
Bien sûr. Merci d'avoir été avec nous, Patrick Mzadeh, chercheur indépendant spécialisé sur la Libye, ancien diplomate à l'ambassade de France à Tripoli. Olivier, bonne journée à Abidjan. 33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur la situation sécuritaire au Darfour, dans l'ouest du Soudan. Bonjour Apoulos.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes en Côte d'Ivoire, à Daloa exactement.
Oui, je suis à Daloa en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux d'intervenir ce matin sur des sujets très importants. Alors, les combats ont repris entre les forces soudanaises et l'armée de libération du Soudan au Darfour après plusieurs mois d'accalmie. Première question, pourquoi la reprise des combats alors que depuis janvier, la région était plutôt calme? Deuxième question, les combats pourraient-ils influencer la décision de lever des sanctions américaines en faveur du Soudan?
Oui, c'est vrai qu'avant de quitter la Maison-Blanche, Barack Obama avait décidé de lever les sanctions économiques américaines contre le Soudan. Bonjour Jérôme Tubiana.
Bonjour.
Chercheur spécialiste du Soudan et du Tchad, consultant pour l'ONG Small Arms Survey, qui est spécialisé dans l'analyse des conflits. La crise du Darfour, on en a beaucoup parlé évidemment, les auditeurs en ont beaucoup entendu parler au début des années 2000, on parlait de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, les États-Unis ont même parlé de génocide, et visiblement, on n'en parlait plus ces derniers mois, mais visiblement on a l'impression que le conflit s'éternise, alors qu'il y a quelques mois, effectivement, comme le rappelait notre auditeur, Khartoum avait décrété un cessez-le-feu unilatéral.
Oui, tout à fait. En fait, les violences sur le terrain, paradoxalement, n'avaient jamais cessé, avaient même augmenté ces dernières années. Les violences, en particulier des milices, les fameux Janjaweed contre les civils. Mais par contre, il est vrai que les groupes rebelles, dont l'armée de libération du Soudan, s'était retiré en particulier à l'extérieur, en particulier en Libye, et notamment auprès du général Haftar dont vous parliez à l'instant et qui a hébergé une partie des rebelles du Darfour. Grâce à lui, ils ont pu se réarmer et se sont sentis assez forts pour tenter un retour au Darfour. Donc ils ont en partie réussi ce retour, même s'ils ont eu quand même récemment, donc lors de leur entrée depuis la Libye, ils ont livré plusieurs batailles contre les milices et l'armée et essuyé un certain nombre de pertes, notamment plusieurs commandants qui ont été tués ou faits prisonniers.
Ouais. Alors les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir violé ce cessez-le-feu décrété en janvier dernier. Pourquoi ce regain de violence maintenant, Jérôme Tubiana, maintenant alors que la Maison-Blanche est censée lever les sanctions dans les prochaines semaines, que l'Union africaine, les Nations unies se disent bon, on va peut-être lever le pied et réduire le nombre de militaires de maintien de la paix sur le terrain. Pourquoi maintenant?
Ben justement, pour tout ça, c'est bien pour cela que les rebelles ont choisi d'entrer à ce moment-là, et c'est plutôt un bon timing d'un point de vue politique, puisque les Américains et les Nations Unies et l'Union africaine disaient qu'il n'y avait plus de conflits et plus de rebelles, et que donc il était temps de passer à autre chose. Donc les rebelles ont voulu montrer qu'ils étaient encore là et qu'il y avait encore un conflit. Je suis pas certain pour autant que ça influencera la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de réduire les effectifs des forces de maintien de la paix. Il faut voir aussi comment réagiront les Américains, puisque effectivement l'arrêt de la violence était pour eux tout de même un critère important.
Bien sûr.
Afin de voir s'ils continuaient si prolonger la levée des sanctions. Il y a un autre timing, qui est plus une coïncidence, qui n'était pas forcément prévue, mais qui peut jouer un rôle important, c'est que la division, l'hostilité croissante entre d'un côté le Qatar, qui a un grand soutien du gouvernement soudanais, de l'autre l'Arabie saoudite et l'Égypte. Déjà le Soudan a accusé aussi l'Égypte de soutenir les rebelles récemment. Mmh. Donc il faut cette division peut plutôt bénéficier aux rebelles et et voir Khartoum un peu plus isolé qu'il ne l'était ces derniers mois.
Merci Jérôme Tubiana de nous avoir éclairé sur la situation pour le moins complexe au Darfour dans l'ouest du Soudan. Je rappelle que vous êtes chercheur spécialiste du Soudan et du Tchad. On remercie évidemment Apoulos qui nous appelait de Daloa. D'autres questions, évidemment, demain matin, vous nous appelez d'ici là. Toutes vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70, un numéro que vous continuez à composer puisqu'on va se retrouver dans 10 minutes. On va parler ensemble de la révision de la Constitution au Mali.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.